grand angle.
L'examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir est revenu une nouvelle fois à l'Assemblée nationale. Pour la troisième et dernière fois, les députés débattent de ce texte particulièrement sensible, un texte qui touche à l'intime, à la médecine, à la conception même de la solidarité nationale, liberté individuelle face à la mort, protection des personnes vulnérables, rôle des soignants, développement des soins palliatifs. Les discussions sont passionnées et traversent l'ensemble de la société. Le texte suscite notamment l'opposition des représentants des trois grandes religions monothéistes, islam, christianisme et judaïsme, y voient une remise en cause d'un principe fondamental, l'interdit de donner la mort. Le texte prévoit sous certaines conditions un recours au suicide assisté ou à l'euthanasie. Pour en parler, Philippe Gosselin, député de la droite républicaine, député de la Manche. Bonjour Philippe Gosselin.
Bonjour.
Alors tout d'abord, près de 1800 amendements ont été déposés pour cette nouvelle lecture, dont plus de 500 par votre groupe. Vos adversaires parlent d'obstruction parlementaire. Vous leur répondez quoi ? S'agit-il de ralentir le texte ou de tenter d'en corriger les failles ? Et quel bilan faites-vous aujourd'hui ?
Alors écoutez, d'abord, il s'agit de prendre son temps. Même si on est dans une quasi ultime lecture, nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence au point. Alors, quand je dis urgence au point, entendons-nous, il ne s'agit pas de considérer que ceux qui aujourd'hui souffrent peuvent attendre. C'est pas dans ce sens-là, évidemment, que je le dis. Et j'entends bien le reproche qui pourrait nous être fait, parce qu'il a déjà circulé, de gens qui n'ont pas d'empathie, qui sont sans cœur, etc. Non, simplement, nous estimons que nous sommes en train de franchir un pas extrêmement important. C'est une réforme en profondeur qui modifie notre vision de la société, et même dans cette troisième lecture, il importe de prendre son temps, de dire les choses, d'essayer de soulever un certain nombre d'interrogations, et donc pour ça il faut du temps, et on n'est pas, puisque le débat doit se tenir de toute façon, on n'est pas à une journée ou deux près pour interdire finalement ou empêcher l'examen d'un certain nombre d'amendements.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de recherche de consensus, c'est ce que vous nous dites, vous qui siégez à l'Assemblée nationale ?
Non, et parfois les débats sont tendus, alors ce qui n'est pas totalement illogique et anormal, mais il y a de l'impatience qui s'exprime chez certains, considérant que ça fait déjà quelque temps qu'on en discute et que ça suffit, il faut aller vite. Non, il faut encore et toujours prendre le temps de poser les choses. La navette parlementaire permet d'éviter sur un sujet aussi important, qui est une vraie révolution, et évidemment, qu'on puisse se donner le temps, le recul nécessaire, et puis que ça ne soit pas, parce que c'est un peu ça aussi qui est en cause aujourd'hui, que ça ne soit pas un élément de fin de mandat présidentiel qui serait à chercher absolument, parce qu'on n'aurait pas grand-chose d'autre à mettre à l'actif du président de la République. Ça, c'est aussi un vrai sujet.
Vous êtes un élu républicain, à tout point de vue, j'allais dire, vous êtes issu de la droite républicaine. Comment expliquez-vous le fait que les trois grandes religions monothéisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme, soient fermement opposés à ce texte? C'est ce que disent d'ailleurs les imams dans leurs prêches, les prêtres également lors de la messe.
Ça correspond vraisemblablement à l'interdit de donner la mort. Hein. Tu ne tueras point, et ça c'est effectivement un point commun aux trois grandes religions monothéistes, et donc on peut retrouver cette approche. Mais ça va bien au-delà, parce que ce texte, il concerne évidemment tout un chacun, pratiquant ou pas pratiquant, ayant la foi ou n'ayant pas la foi, ou éventuellement d'autres obédiences, d'autres religions. Et c'est vrai que même le serment d'Hippocrate contient cette notion de soin, et donc très clairement aussi un interdit de la mort. Le le soin, il est indiqué, il est explicité dans le code de la santé publique. Et si on raccroche, et c'est le cas, avec le texte en cours de discussion et de débat, si on raccroche cette fin de vie, cette euthanasie, ce suicide assisté au code de la santé publique, ça veut dire qu'on le reconnaît comme un soin. Et encore une fois, non, ce n'est pas un soin. Il y a bien cette notion de mort, de donner la mort. Et donc, c'est un débat qui, évidemment, est légitimement amène des réactions des religions. Et moi, j'ai pas de difficulté, d'ailleurs, à ce que les religions puissent s'exprimer. Après, c'est à chacun, en son âme et conscience, et en tant que législateur, de prendre en compte ou pas, et j'entends bien ce que me diraient certains collègues là-dessus, de prendre en compte ou pas un certain nombre d'éléments. Mais en nous opposant, et nous sommes quand même nombreux à le faire, hein, je rappelle qu'on n'a pas une majorité de 80% des parlementaires qui sont pour le texte. En réalité, à l'Assemblée nationale, la dernière fois, en deuxième lecture, on était à 57 ou 58%. Donc c'est pas une majorité si écrasante, parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'une question de foi, loin s'en faut. Derrière ce sujet, c'est la conception de la société, c'est la conception de la fin de vie, c'est le rapport à la mort, je l'ai dit, des jeunes ou des moins jeunes. Ce n'est pas simplement des personnes d'un certain âge. Hein. Ce texte, il peut concerner aussi des beaucoup plus jeunes qui seraient atteints d'une maladie incurable. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête et surtout qu'on évite de s'envoyer des choses très binaires qui n'apporteraient rien au débat. En réalité, sur un texte comme ça, il faut y aller la main tremblante et les choses sont évidemment, même avec un texte qui serait voté, toujours très 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 en grisé. Pourquoi ? Parce que c'est pas noir ou blanc et qu'on a tous aussi, bien sûr, des situations individuelles dans nos proches, nos amis ou des gens que l'on peut connaître de façon plus lointaine qui nous interrogent aussi sur ce qu'il faut faire pour la fin de vie. Donc c'est toujours très, très fragile. Mais encore une fois, puisqu'on va mettre le pied dans une porte, il est important que cette porte ne cède pas à toutes les demandes, parce que toutes les demandes, si elles sont respectables quand il y a souffrance, ne peuvent pas non plus avoir une réponse absolue et définitive.
Alors, verdict, hein, le 30 juin prochain, le vote solennel de cette troisième lecture.
C'est bien ça.
La majorité des députés y est aujourd'hui favorable, hein, c'est un fait. Si elle est votée à l'Assemblée, quand cette loi sera promulguée ?
Bah écoutez, elle devrait repasser une dernière fois au Sénat le vote ultime interviendrait cette fois-ci. Il y a même une date qui a été fixée en conférence des présidents cette semaine à l'Assemblée, une date qui serait un vote définitif sous réserve de changement d'ici là, hein, le 15 juillet. Donc on peut penser que ce texte connaîtra peut-être une saisine du Conseil constitutionnel, c'est possible. Personnellement, je pense que le Conseil ne tranchera pas, parce que sur des questions de cette nature, le Conseil constitutionnel se met souvent en retrait. Donc on pourrait supposer, à tort ou à raison d'ailleurs, que le texte passerait l'épreuve du Conseil constitutionnel, mais on verra bien et on s'y accrochera. Et donc une promulgation qui suivrait. Donc on pourrait dire dans cette hypothèse fin juillet, début août, dans ces eaux-là vraisemblablement en tout cas.
Et vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de mener un combat perdu d'avance ?
Ah, vous savez, si on ne menait que les combats qu'on est sûr de gagner, on ne ferait pas de politique et on ne serait pas engagé. Même si le texte était voté, était promulgué, et ça sera peut-être le cas, chacun aura, et c'est vrai pour les collègues qui sont favorables aussi, chacun aura essayé d'apporter des arguments, d'interpeller, de faire réfléchir. Et je constate déjà que s'il n'y avait pas eu un texte scindé en deux, on n'aurait peut-être pas eu la même unanimité sur les soins palliatifs. Donc ce qui a été dit depuis quelques longs mois sur les soins palliatifs a quand même été entendu. Et donc ça n'a pas été que des voix dans le désert. Là, j'ose espérer qu'au travers des centaines d'amendements que nous défendons, qui sont examinés, nous arriverons à éveiller les consciences, à interroger même ceux qui sont favorables, parce que encore une fois, c'est pas tout blanc tout noir, et qu'il faut éviter d'avoir un affrontement qui serait très très binaire. Et puis encore une fois, on ne sait jamais. On a parfois eu des choses qui paraissaient désespérées, désespérantes aussi, et dont le processus était inversé. Donc jusqu'au bout, avec respect, sans faire de celui qui est en face et qui porte une haute voix un adversaire, un combattant. Je refuse de rentrer dans des débats de cette nature. Eh bien, qu'on puisse s'écouter et progresser ensemble. Encore une fois, sont des textes qui demandent beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Donc soyons dignes dans nos prises de position, dans nos débats, et acceptons aussi qu'on soit écouté, parfois mal entendu, c'est certain, mais sans être arrogant. Et c'est ça que je veux absolument que nous évitions les uns comme les autres. N'oublions pas que ce texte a un objectif, même si nous n'avons pas les mêmes voies pour y parvenir. L'objectif, c'est une fin de vie digne, avec le moins de souffrances psychiques ou psychologiques. Et là, ça montre, vous voyez, toute la noblesse, je ne veux pas être grandiloquent, mais toute la noblesse et toute la responsabilité, quelles que soient nos décisions et nos façons de les exprimer, et nous devons avoir effectivement le souci du bien commun, de l'intérêt collectif et aussi individuel. Là, nous sommes en effet pleinement législateurs, et ce que nous votons individuellement engage évidemment fortement l'ensemble de la société. C'est une responsabilité très lourde et que nous essayons d'assumer avec là aussi la plus grande dignité.
Merci beaucoup, Philippe Gosselin.
Merci à vous de nous laisser ce temps d'échange et de parole et de sensibilisation aussi.
Merci, c'est notre mission. Je rappelle que vous êtes député de la droite républicaine, député de la Manche. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.